Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle, la dernière de la saison. Pourquoi à bout de souffle? Vous en avez l'habitude maintenant, tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros. Ensuite, parce qu'à la fin de cette émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr. Deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter une personnalité plus ou moins connue, revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs. Des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous.
Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil.
Pour cet épisode avec moi, on finit la saison en beauté avec celle qui raconte la vie des autres à travers des livres, exercice qu'elle fait avec passion et finesse. Si vous savez tout ou presque d'Olivier Giroud, c'est notamment grâce à elle, une femme qui a fait le choix d'être derrière la scène pour sublimer ceux qui sont devant. De Didier Deschamps à Laura Blajman-Kadar, du doc C'était écrit La Revanche des Bleus sur France 5 au portrait des personnalités sur M6, tous ont un point en commun. Dominique Rouge, comment ça va Dominique tout d'abord?
Ça va, merci.
Bah, je vous en prie, très content de vous recevoir pour cette dernière. J'ai l'habitude avec mes invités de commencer par une fiche d'identité. Et est-ce que vous êtes prête pour qu'on la remplisse ensemble?
Allez-y, on va essayer.
Alors vous êtes la fiche d'identité numéro 141-069-17, nom, prénom ou pseudo?
Prénom Dominique.
Prénom. Date de naissance?
Oh non, 19 janvier.
19 janvier, on donne pas l'année. Lieu de naissance?
Nice.
Profession?
Journaliste, réalisatrice et biographe.
Passion, hobby?
D'après vous.
L'écriture?
Le foot.
Ah. Citation préférée?
Oh, ça, il fallait me le demander avant. La citation que j'ai mise quand j'ai écrit la biographie de Deschamps, il savait que c'était impossible, mais il l'a fait, un truc comme ça.
Ok, bah, nos auditrices ou auditeurs iront se procurer le livre pour avoir la citation.
C'est ça.
Et réseaux sociaux, vous êtes présente sur les réseaux sociaux ou pas du tout?
Si, je suis présente, ouais.
Ok, est-ce qu'on peut parler de l'enfance de Dominique Rouge? Je vous le dis, vous êtes née à Nice. Comment elle se passe, votre enfance?
Pas très douce, mais pas dramatique non plus. Mais Nice, très, très agréable. Mais je n'y suis pas restée longtemps, je suis restée que 10 ans.
Après, vous partez pour quelle ville?
La banlieue parisienne.
Okay, et comment ça se passe en banlieue parisienne?
Un peu mieux, personnellement un peu mieux. Et après, ça va beaucoup mieux quand j'entre au lycée à Paris.
Et à l'école, comment ça se passe? Avant le lycée d'ailleurs, élémentaire, collège, est-ce que vous avez des souvenirs?
Oui, une cata. pas au niveau des études, au niveau de la discipline. Je suis très indisciplinée, je fais beaucoup de conneries, j'aime bien faire rire les autres. Donc je me fais renvoyer de deux écoles à cause de la discipline. Je redouble ma seconde et à partir de la seconde, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je me prends de passion pour la philo. Et là, je ne me calme pas. Je suis toujours indisciplinée, mais là, je travaille vraiment bien.
Et c'est quoi qui vous plaisait en philo?
C'est la réflexion. C'est qui suis-je? Où vais-je? Et puis surtout, j'avais une prof de philo qui m'a vraiment transmis sa passion. Et donc, voilà, j'étais passionnée de philo. Je lisais tous les bouquins de philo. Je voulais devenir agrégée de philo. Enfin... Voilà, donc je me suis beaucoup calmée à partir de la seconde.
Qui suis-je? Où vais-je? À quel âge on répond à ces questions, finalement? Est-ce que dès la seconde, vous arrivez à y répondre ou c'est un peu plus tard que ça arrive?
Je pense que j'essayais, j'y arrivais pas, mais j'essayais d'y répondre bien avant. Et comme j'écrivais, depuis que j'ai, je sais pas, 10 ans, 12 ans, 10 ans, j'écris. Okay. Donc je me souviens que parfois, oui, j'écrivais des petits essais comme ça, je me cherchais... Je me demandais pourquoi j'avais cette vie. J'avais l'impression d'être différente des autres, ne pas avoir la même tête que les autres. C'est assez compliqué dans ma tête.
Et cette passion pour l'écriture, elle vous vient comment? C'est comme ça? En même temps, on décide d'écrire.
Oui, parce que je n'étais pas une lectrice assidue. Je pense que j'avais beaucoup de choses à l'intérieur de moi qu'il fallait que j'expulse. Et j'ai trouvé ce moyen-là. Ça aurait pu être la musique. Je fais du piano, mais bon, voilà. C'est dans l'écriture que j'ai trouvé mon salut.
Vous aviez des rêves quand vous étiez enfant ?
Je voulais devenir écrivain.
Déjà, vous le saviez dès la première fois.
Ouais. Alors, avant, c'était chanteuse, etc. Mais quand j'ai commencé à être un peu cortiquée, ouais, tout de suite, j'ai voulu être écrivain.
Et vous vous souvenez de la première chose que vous avez écrite ? La première chose marquante, en tout cas, que vous avez écrite ?
Oui, c'était des poèmes d'amour pour mon prof de français.
Ok.
Que je lui avais envoyé et je l'ai revu 10 ans ou 15 ans plus tard. Et il m'avait dit que quand il avait... Enfin, j'avais 14 ans, donc évidemment, il n'a pas réagi, heureusement. Qu'il avait été effectivement très, très troublé par ces poèmes.
Et après le lycée, qu'est-ce que vous faites ? Il y a la terminale, vous obtenez le bac ? D'ailleurs, faites une filière...
Et après, je pars à la Sorbonne faire des études de philo. Et voilà, et je vais jusqu'en maîtrise de philo. Effectivement, je me destinais à l'agrégation. Et puis quand on m'a dit qu'il fallait travailler 15 heures par jour, je me suis dit non, ça c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et puis entre-temps, je fais la connaissance je revois par hasard un ami de mon grand frère qui dirigeait, mais vous êtes trop jeune pour reconnaître, un magazine qui avait beaucoup de succès à l'époque, qui s'appelait Globe. Très tendance, très... voilà, et je ne sais pas pourquoi, je lui dis, écoute, j'aimerais bien faire un stage. C'était pas... Bon, ça allait avec mes études de philo, c'était de l'écriture, c'était... Et évidemment, il a accepté que je fasse ce stage. Et puis là, ça a été... Waouh, le journalisme, c'était top, quoi. Et j'ai eu une révélation et je me suis dit, allez, je quitte tout. Et en fait, c'est ça que je veux faire.
Ça vous a appris quoi, ce stage, exactement ?
C'était un milieu que je ne connaissais pas. C'était un milieu qui me faisait rêver. Et puis, comme je suis très, très curieuse, je pouvais écrire sur plein de sujets, et puis plein de sujets actuels. Et puis, je me rendais compte que... En fait, la philo, c'était génial, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore aujourd'hui à réfléchir, à construire mes livres, à structurer la logique de la philo, c'est hyper important. Mais je trouvais ça poussiéreux, alors que le journalisme, c'était actuel, c'était contemporain. Et donc voilà, j'ai fait ce stage pendant... Je devais rester un mois, je crois que je suis restée 3-4 mois. Et puis tout s'est déclenché quand j'ai rencontré Thierry Ardisson.
Comment ça se passe, la rencontre avec Thierry Ardisson ? C'est dans quel cadre et pourquoi tout se déclenche à ce moment-là ?
Parce que c'est la télé, en fait. Et j'ai vraiment eu un déclic. Je rencontre Thierry Ardisson, je crois, dans le cadre d'une soirée de ce journal Globe. Je ne sais pas pourquoi il me repère. Et il me dit, je ne sais pas, je ne me souviens plus pourquoi, ça fait quand même très longtemps. Et il me dit, voilà, j'ai une émission où on piège des personnalités. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire ? J'avais à l'époque 20 ans, je crois. Ouais, à peine 21 ans. Et je lui ai dit, ben ouais, pourquoi pas ? À l'époque, Thierry Ardisson, c'était vraiment la star, quoi. Il avait des émissions extraordinaires. Et voilà, et j'ai commencé la télé comme ça, dans une émission très particulière. Mais voilà, c'était parti. Alors quand je dis c'était parti... ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, mais bon, ça on en parlera après, j'imagine.
Bah, on peut en parler même maintenant. Pourquoi c'est pas un long fleuve tranquille ? Qu'est-ce qui se passe après ?
Parce que le milieu de la télé, c'est un milieu très fermé. Quand on arrive de province, qu'on n'est rien ni personne, on a une maîtrise de philo en poche, on n'a pas de réseau, on n'a pas de relation. Comment on fait pour s'imposer ? Comment on fait pour travailler ? Alors, moi, j'ai eu de la chance d'arriver à Globe, ensuite de croiser Thierry Ardisson, mais j'ai eu des hauts et puis beaucoup de bas et beaucoup de périodes où je ne travaillais pas et où je me disais, bon, bah, arrête, quoi. Et puis, comme il fallait que je gagne ma vie, donc j'étais prof de philo, prof de français dans des lycées pour... mais j'ai toujours rebondi. Et puis, entre-temps, il y a eu... les livres qui étaient, enfin vraiment, qui sont arrivés, sont tombés du ciel presque.
C'est lequel le premier livre que vous avez écrit ?
Le premier livre, il s'appelait Dieu seul le sait, et c'était sur les miracles religieux. Alors ça, c'est une belle histoire parce que c'est vraiment le destin. J'étais partie dans la télé et à aucun moment, j'imaginais que j'allais publier des livres dans des grandes maisons d'édition. Et puis un jour, j'étais à Globe avec le frère du patron, qui est un ami à moi. Et puis, il feuilletait Paris Match. Et puis là, il ouvre et il voit 65e miracle reconnu à Lourdes. Et il me dit, oh là là, c'est pas mal comme truc. Et moi, c'est vrai que je suis assez fascinée par ces trucs-là. Voilà. Et donc, je lis, je dis, ouais, c'est assez étonnant. Et il dit, ça mériterait un livre, je vais appeler un éditeur d'une grande maison d'édition, je vais lui proposer un livre, ça te dirait de l'écrire? Je dis, j'ai jamais écrit de bouquin, j'y connais rien en miracle. Oui, mais est-ce que ça te dirait? Ben oui, ça me dirait, évidemment, j'ai toujours rêvé d'écrire. Et donc, il appelle l'éditeur, il met en haut-parleur, et il lui dit, voilà le sujet. Donc, l'éditeur lui dit, waouh, ouais, génial, il va falloir trouver un spécialiste des miracles ou un théologien pour... Et Stéphane, il s'appelait Stéphane, lui dit « Non, j'ai quelqu'un pour toi, elle a 20 ans, 21 ans, elle a une maîtrise de philo. » Et l'éditeur lui dit « Mais non, enfin 21 ans, elle ne peut pas. » Et il dit « Fais-moi confiance, reçois-la. » Et à l'époque, j'avais les cheveux très très longs, j'étais arrivée au rendez-vous avec un jean déchiré, un perfecto. Et quand l'éditeur est sorti pour son rendez-vous, il m'a regardé, puis il a regardé sa secrétaire. Il a dit, mon rendez-vous est où? Ouais. Eh oui. Et donc, elle lui dit, c'est mademoiselle. Et là, il me regarde. Et par la suite, il m'a dit, quand je t'ai vu, j'ai compris que j'allais signer ce contrat. Parce qu'en fait, il avait pensé marketing. Il s'était dit, bon, elle doit savoir écrire. Elle a une maîtrise de philo, donc elle doit... Voilà. Elle va se documenter sur le sujet, c'est une journaliste, donc elle va aller à Lourdes, elle va interviewer des gens, etc. Mais lui, ce qu'il avait vu, c'était le marketing. Il s'est dit, un livre sur les miracles, écrit par une fille de 20 ans qui a un jean troué et un perfecto, forcément, ça va marcher. Et ça avait fait un carton. Ça avait fait un carton, vraiment.
Et vous racontez quoi dans ce livre? Vous rencontrez qui? Qu'est-ce qui vous apprend à titre personnel, ce livre?
C'était vraiment génial. Et ben, j'ai rencontré, je voulais faire toutes les religions. Mais je me suis quand même rendu compte que la religion catholique était quand même très particulière à ce niveau-là. C'est-à-dire que chez eux, les miracles, c'est... Allez, je ne vais pas dire que c'est un fonds de commerce, ce n'est pas gentil, mais enfin, c'est presque ça. Dans la religion juive, c'était très discret. Chez les musulmans, pareil. Par contre, chez les protestants, les évangélistes et les catholiques. Et puis, il y avait Lourdes, voilà, que tout le monde connaît. Donc, je me suis dit, je vais faire une enquête. Et j'ai réussi donc à aller à Lourdes et j'ai surtout réussi à interviewer des miraculés reconnus par le Vatican. Et j'avoue que ça m'avait vachement troublée. Et après, je suis allée voir des médecins, des psychiatres. Enfin, j'ai essayé de faire une enquête aboutie sur le sujet et ça a très, très bien marché.
Et comment on vit ce succès quand on est aussi jeune?
Alors, je vais vous raconter une anecdote et vous allez tout de suite comprendre. Quand ce livre est sorti, j'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de radio, beaucoup de presse écrite. Et c'est vrai qu'à 21 ans, quand on sort son premier livre et qu'on a du succès comme ça, voilà. Et puis un jour, j'ai été invitée sur une émission de Patrick Poivre d'Arvor qui était la référence littéraire, l'émission littéraire de référence. Je me souviens plus que ça s'appelait Ex Libris. Et j'étais l'invitée principale. Et l'émission portait le nom de mon livre. Donc, vous imaginez, à 21 ans. Et je traverse la rue pour rentrer dans le studio. Et je ne fais pas gaffe. Et là, il y a une voiture qui arrive, qui pile devant moi. Et je me retourne. Et là, le mec baisse la vitre et m'insulte. Ouais, connasse, trempin. Et ça m'a fait redescendre sur terre tout d'un coup. En me disant, mais tu vois, le mec, il ne te reconnaît pas, il t'insulte, et puis toi, tu as failli crever en une minute. Donc, tu n'es rien, en fait. Et à partir de ce jour-là, ça a été terminé.
Pour tout le restant de votre vie, chaque succès derrière, c'est...
Non, vraiment.
Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'elle fait, Dominique?
Après, j'enchaîne tout de suite, comme le livre a très bien marché, j'enchaîne un second livre qui s'appelle « Amour à mort ». Sur les crimes passionnels, où là, je vais interviewer des criminels passionnels en prison et à l'extérieur. Et je fais une enquête, comme j'avais fait sur les miracles, je fais sur les crimes passionnels. Le problème de ce livre, alors là aussi, pas mal de presse, beaucoup de presse, il a fait un flop retentissant parce que j'ai pris le parti des criminels contre les femmes. Alors, c'est un peu caricatural quand je dis ça, mais quand j'ai étudié le profil des femmes qui se faisaient tuer, elles avaient toutes le même profil. Et c'est vrai qu'elles... c'était des femmes fatales, des mentes religieuses, des provocatrices, etc. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, je ne tiendrai plus les mêmes propos. J'avais 22 ans, j'étais un peu dans la provoque, un peu... Donc je me suis fait incendier et le livre s'est très mal vendu, quoi.
Lui, il n'a pas du tout marché.
Non, pas du tout.
Je suppose que ça... Enfin, vous étiez déjà remis sur terre.
J'étais sur terre.
Mais là, ça...
Là, c'était clair, je n'allais pas voler de succès en succès.
Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, il y a Lettre à Stéphanie. Vous dites quoi dans Lettre à Stéphanie?
Le titre est beau, Lettre à Stéphanie. C'était génial. C'était l'ex-mari de la princesse Stéphanie de Monaco. Il y avait eu un scandale à l'époque. Il l'avait trompée et ils avaient divorcé. Et ce garçon avait toutes les maisons d'édition derrière lui, évidemment, qui lui proposaient des sommes faramineuses pour qu'il accepte d'écrire son histoire. Et donc, un jour, il décide de réunir chez son avocat 3-4 maisons d'édition, 3-4 éditeurs avec l'auteur. Voilà. Et donc, il y avait des maisons d'édition italiennes, allemandes, anglaises et nous, françaises. Et toutes les maisons d'édition lui proposaient des sommes folles. Et quand on arrive devant lui, mon éditeur lui dit « Écoutez, voilà, nous, on est en France. C'est pas la même chose. C'est pas... Donc, on va vous proposer tant. » Et c'était 10 fois moins que les autres. Et puis ensuite, moi, je lui parle et je dis, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, bien sûr, mais c'est surtout vous. Peu importe que vous ayez trompé votre femme, on s'en fout. Comment on vit quand on est ex-garde du corps et qu'on se marie avec une princesse? Comment on vit ça? Comment on vit ce que vous vivez là? Comment on... Et je suis allée vraiment dans la psycho, enfin, dans ce qui m'intéresse, en fait. L'humain... Et puis, 3 jours après, son avocat nous rappelle en nous disant « Bon, ben voilà, il vous a choisi. » Et là, j'étais vraiment contente parce que là, je décrochais un scoop fabuleux, quoi. Et c'est ça aussi, être journaliste. C'est pas... OK, le sujet, il était marrant, mais bon, il n'y avait rien de glorieux. Mais tout le monde était dessus et c'était moi qui l'avais décroché. Donc, j'étais assez contente.
Mais vous vous considérez plus comme journaliste qu'écrivaine ?
À cette époque, oui. Aujourd'hui, un peu moins. Alors, écrivaine, oui, parce que j'écris. Je dirais plus biographe qu'écrivaine.
Et d'ailleurs, pourquoi biographe? Pourquoi la biographie? Pourquoi décider de raconter la vie des gens? Ça, c'est quelque chose de super intéressant. Pourquoi ça? Et finalement, pas être resté, par exemple, sur les miracles ou les crimes passionnels?
Alors, je ne dis pas que je ne ferai pas, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de sujet qui me donne envie de faire ça. Et en fait, moi, les livres que j'ai écrits, c'est comme ça, je les sens. Et même l'ex-mari de la princesse Stéphanie, bon, c'était un scoop, il fallait que je sois dessus. Ça marchait, tant mieux, ça marchait pas, tant pis. La biographie, c'est venu à partir de lui. Et puis ensuite, évidemment, avec les footballeurs, on en parlera après, mais c'est vrai que c'est des trajectoires de vie qui me passionnent. Je vous dis la vérité, alors ça se dit pas, mais je vais le dire quand même. On me proposerait d'écrire la biographie de Kylian Mbappé. Je l'écrirais parce que je pense que je gagnerais de l'argent. Ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas parce que c'est un génie. Il est né avec un talent fou. Il a pas eu vraiment à se battre. Et puis, quand on voit ce gamin jouer, on sait qu'il va arriver très haut. Peut-être pas là où il en est arrivé, mais... Donc, bon, c'est pas une trajectoire de vie qui m'intéresse. Par contre, les gens qui n'ont rien au départ et qui arrivent très très haut, là, ça m'intéresse parce que j'essaye de voir ce qui se cache derrière.
Mais est-ce qu'il y a des personnalités, par exemple, dont vous aimeriez écrire la biographie aujourd'hui? Il y en a qui... Bon, peut-être pas un rêve, mais il y a ce...
une envie. Alors, je suis très, très branchée foot. Hein. Pogba, Paul Pogba. Ah, je le chasse depuis quelques années déjà, mais c'est difficile.
Avant même les histoires, ouais, ouais. C'est quoi qui vous intéresse particulièrement chez lui, par exemple?
Ben, c'est son histoire, avant même l'histoire, avec ses frères. Voilà, c'est une personnalité quand même très intéressante. Bon, là, encore plus. Donc, Pogba, oui. Oui, il m'intéresse. Et puis, j'aimerais savoir ce qui se cache derrière tout ce bling-bling. Et je suis sûre qu'il y a autre chose derrière. Alors, il y a eu un documentaire qui a été fait que je ne trouve pas très bon parce qu'on ne le connaît pas mieux. Non, sur l'équipe, c'était pas mal. Non, sur Netflix ou Amazon. Où
il n'était pas autour de sa famille, sa femme. Voilà. C'est vrai qu'il n'était pas...
On ne sait pas qui il est. Moi, j'aimerais savoir qui est cet homme, vraiment.
Et comment vous vient la passion pour le football? Est-ce que c'est une passion d'enfant? Est-ce que ça se développe sur le tard? Comment ça se passe?
C'est ma mère qui était passionnée de foot. Et donc, dès que l'âge de 6 ans, 7 ans, je me souviens m'asseoir à côté d'elle et regarder les matchs de foot. Et voilà, et comme elle était passionnée, on regardait tout. Et c'est comme ça que ça m'est venu. J'ai toujours été passionnée de foot, ouais. Ouais.
Et vous êtes supportrice d'un club en particulier ou pas du tout?
Non, c'est l'équipe de France.
Juste l'équipe de France. Vous êtes passionnée de foot, vous avez la chance d'écrire la biographie de footballeur, c'est juste dingue. Enfin, la première fois que ça arrive, c'est Didier Deschamps, je crois.
Alors je vous reprends sur la chance.
Ça n'existe pas
de la chance. C'est
intéressant, d'ailleurs, si vous pouvez développer, c'est la chance pour vous
Non, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, franchement, ce n'est pas de la chance. La chance, c'est par exemple mon premier livre, où ça me tombe dessus comme ça et je n'ai qu'à dire oui, à tendre les bras et je signe un contrat de livre. Ça, c'est de la chance. Ah, Deschamps, ce n'est pas de la chance. Ni Deschamps, ni Giroud, ni tous les bouquins après. Je me suis battue, imaginez le caractère de Deschamps. Imaginez une gamine de... J'avais quel âge à l'époque? J'avais 24 ans, je crois. Non, pas 24 ans, non, pas du tout. Non, j'avais 30 ans. Mais ce n'est pas le problème. Pour arriver à lui faire écrire un livre, je me suis battue comme une chiffonnière et pendant longtemps.
Il ne voulait pas raconter son histoire?
Non.
Et c'est quoi qui vous intéressait justement chez
Alors lui, ce qui m'intéressait, c'est comme ça que j'ai vendu le livre à mon éditeur qui n'en voulait pas. Parce que c'était, il avait gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et l'Euro. Et il était à Valence, c'était la fin de sa carrière. Et puis un jour, je regardais, je lisais des choses sur lui et puis je me suis dit, mais comment ce type qui n'a pas grand chose pour lui en fait, il joue pas particulièrement bien, il marque pas de but, il paye pas de mine, enfin le mec il a rien. Moi quand j'allais à Clairefontaine pour voir l'équipe de France, honnêtement je voyais tout le monde sauf lui. Je voyais Zidane, enfin je regardais Zidane, je regardais Emmanuel Petit, Thuram, De Sailly, etc. d'échanges. Et un jour je me suis dit non mais attends, lui il a rien pour lui et c'est le plus beau palmarès du football français. Il a tout gagné, il a été capitaine de toutes les équipes où il est passé. Il y a un truc là, il faut que j'aille voir. Et donc, quand j'ai vendu ça à mon éditeur, il m'a dit « ouais, c'est intéressant ». Et après, il a fallu convaincre Deschamps d'écrire ce livre. Donc, je l'ai appelé. J'ai réussi à avoir son numéro de téléphone par sa mère. Je ne sais plus comment j'avais eu sa mère au téléphone. Et je lui ai dit, je me présente, je voudrais écrire un livre sur vous et avec vous. Et il m'a dit, c'est hors de question, vous n'écrirez rien sur moi, je ne veux pas que vous écriviez quoi que ce soit. Et j'ai dit, oui, mais c'est embêtant parce que vous êtes un homme public. Donc, vous ne pouvez pas m'interdire d'écrire un livre, moi je vais écrire votre biographie. Et si vous m'interdisez, je vais quand même l'écrire, mais probablement avec des conneries. Donc, si vous ne voulez pas que je fasse d'erreur dans votre biographie, participez. Il m'a raccroché au nez.
C'est dingue.
Il m'a raccroché au nez. Et Quelques jours plus tard, il m'a rappelé en me disant « Vous pouvez remercier ma femme » qui m'a dit de toute façon « Elle va écrire, elle ne lâchera pas. » Et effectivement, elle peut se tromper sur des trucs. Alors tant qu'à faire, voilà, participe. Et donc, il m'a donné rendez-vous pour qu'on se rencontre à Laval. Je me souviens, il était blessé et il allait se faire soigner à Laval. Et il m'attendait dans un restaurant, donc je ne l'avais jamais vu, hein, vraiment. Je le voyais comme ça sur le terrain ou à Clairefontaine, mais... Et là, au bout de 5 minutes, déjà, je me suis dit, ah ouais, d'accord, je comprends. Et tout petit, hein. Enfin, ouais. Un charisme incroyable. Une aura. Et puis, je sais pas, un truc qui en impose, quoi. D'une simplicité incroyable. Franchement, je suis sortie de là, je me suis dit, ok. Déjà, je sais comment je vais construire ce bouquin, parce que entre l'image qu'on a et le mec, waouh, j'étais vraiment impressionnée, quoi. Impressionnée par sa rapidité d'esprit, sa sympathie, son côté chambreur, moqueur. Voilà. Et donc, il m'a rappelé quelques jours plus tard. Il m'a dit, allez, banco, on écrit. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Et ça vous a pris combien de temps pour écrire ce livre ?
Alors, celui-là, c'est celui qui m'a pris le plus de temps, parce qu'on n'avait pas d'échéance. J'ai dû mettre 1 an pour l'écrire.
Ok. Du coup, en 1 an, quand même, quand vous dites plus de temps, 1 an, c'est quand même assez... Dans notre esprit, à nous, qui sommes un peu loin de ce monde-là, c'est quand même relativement court, en vrai.
Oui, mais Giroux, ça a été écrit en 4 mois.
Ok. Ouais. Donc, un livre, en moyenne, vous, ça vous prend à peu près...
Bah, je suis un peu... Comme je choisis toujours des gens qui sont dans l'actualité, il faut toujours qu'on le sorte vite pour que ça reste dans l'actualité. L'ex-mari de Stéphanie, c'était, je sais pas, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Okay. Donc c'est nuit et jour. Deschamps, il n'y avait pas d'actualité. Je crois qu'il fallait le sortir quand il a arrêté sa carrière de joueur. Donc j'avais 1 an devant moi.
Et quels ont été les retours suite à ce livre-là ?
C'est loin. Il s'est bien vendu, il s'est d'autant mieux vendu qu'il a eu la gentillesse de participer aux émissions de télé. Alors que normalement, c'était signé de mon nom. C'était moi qui devais faire les émissions. Mmh. Je lui ai dit, tu imagines bien qu'entre toi et moi, il n'y a pas photo. Voilà. Si toi, tu y vas, il se vendra plus. Il faut quand même que je précise qu'il n'a pas touché 1 centime.
Il n'a rien pris sur lui.
Rien, ni avance, ni royalties, absolument rien. Donc vraiment, il est allé sur les plateaux télé et il en a fait quelques-uns. Par gentillesse, je ne dirais pas par gentillesse, mais par sérieux. Il avait accepté d'écrire un livre, il allait jusqu'au bout de son engagement.
C'est votre plus belle rencontre, Didier Deschamps, sans faire insulte aux autres, hein, bien évidemment. Mais est-ce que
je dirais que c'est ma rencontre la plus importante, parce que ça fait maintenant 20... C'était en 2000, donc 24 ans, et on est toujours amis.
Ok. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans votre parcours, c'est un livre, je ne sais pas s'il a été écrit avant ou après celui sur Didier Deschamps, c'est « Femmes et dépendance » avec le docteur Lowenstein. Mmh. Comment il vous vient l'idée d'écrire ce livre ? Et c'est vraiment celui qui a attiré mon attention quand je relisais votre parcours. Ouais. Parce que la question qui est posée, enfin les questions qui sont posées, l'addiction est-elle un problème spécifiquement féminin ? Comment les femmes vivent-elles leur addiction ? Sont-elles plus vulnérables que les hommes ? Certaines émotions sont-elles propres aux femmes ? Peut-on parler d'un cerveau féminin ? Mmh. Comment ça vous vient l'idée d'écrire ce livre-là ? Et est-ce qu'on n'est pas sur un sujet finalement... sensible au moment où vous l'écrivez ou pas du tout ? Ou c'est pas une...
Non, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Il y en a un autre avant que j'ai écrit qui s'appelle « Ces dépendances qui nous gouvernent ».
Ok.
C'était le premier et ensuite il y a eu celui-là. En fait, parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu des hauts et des bas. Et j'étais dans un bas où c'était très compliqué de vendre des films à la télé. J'avais peut-être plus d'idées, pas d'idées en tout cas, de bouquins. Donc j'étais dans un down. Et puis j'ai rencontré un addictologue,
okay.
qui venait de monter une clinique spécialisée dans les addictions à Boulogne-Billancourt. J'habite pas très loin. Et je l'interviewais, enfin, je l'ai rencontré en me disant, tiens, je vais peut-être faire un documentaire là-dessus. Et effectivement, j'ai fait un documentaire sur les addictions. Et ensuite, il m'a proposé de rejoindre la clinique pour, en qualité de directrice de la communication.
Okay.
Et donc, j'ai été confrontée à ces femmes, à ces hommes addicts, aussi bien aux substances qu'aux comportements, hein, addicts au jeu, addicts au sexe, addicts au sport, addicts à... Et là, je lui ai proposé d'écrire un bouquin. On a donc écrit un premier livre qui s'appelle « Ces dépendances qui nous gouvernent », qui sont... c'est un peu l'ensemble de toutes les addictions qu'on connaît. Et puis ensuite, on en a écrit un deuxième, « Femmes et dépendance », qui concerne particulièrement les addictions féminines et les comportements féminins dans l'addiction.
Et comment ça se passe, l'écriture de ce livre? Ça prend combien de temps? Est-ce que vous découvrez des choses que vous ne saviez pas vous-même? Est-ce que vous en apprenez peut-être sur vous-même? Comment la construction de ce livre, elle se passe comment?
C'est loin. J'apprends des choses, mais comme je suis au quotidien dans cette clinique, donc c'est ça qui me fait rencontrer ces gens, connaître ce monde, pas évident. Et après, effectivement, sur les femmes, ouais, c'était... Alors, ça m'a pas vraiment ramené à moi, parce que, Dieu merci, à part la cigarette électronique, j'ai pas d'addiction, mais on se reconnaît toujours. Alors, femme ou homme, hein, par exemple, il y a un chapitre sur la dépendance affective. On se sent tous plus ou moins concernés par cette addiction. Et puis après, il y a des addictions plus graves, comme l'addiction à l'alcool. Et l'addiction à l'alcool, ce n'est pas la même chose pour les hommes et pour les femmes, aussi bien physiquement, parce qu'on n'a pas le même métabolisme, que socialement. Un homme qui est bourré, bon, ce n'est pas très joli, mais voilà. Une femme, c'est différent. Donc, c'était un livre assez difficile à écrire. Donc, j'ai interviewé, encore une fois, vous me disiez, voilà, les enquêtes... Ça, c'était une enquête, mais avec l'aide d'un grand addictologue.
Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire un livre sur vous-même? Raconter votre parcours, votre histoire, votre vie, vous confier?
Non, parce que je trouve qu'il n'y a rien de particulier. Je suis un peu émue en disant ça, mais vous me posez la question. Oui, il y a 2 ans, j'ai perdu un être très, très cher. Qui était quelqu'un d'assez connu et reconnu dans son métier, donc en France. Et c'est quelqu'un qui a bouleversé ma vie, changé mon ange gardien, en fait. Et là, je me suis dit, pour exorciser cette peine et tout ça, je vais écrire. Et j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Et c'était trop douloureux, j'ai arrêté. Il est possible que j'écrive là-dessus. Mais sur mon parcours, je trouve que c'est pas intéressant.
Et on vous l'a jamais proposé? Ou on vous en a jamais parlé dans vos proches, vos entourages?
Non, quand on discute comme ça et que les gens me demandent ce que j'ai fait, ce que je fais, etc. Oui, ça peut attirer les gens, mais non, enfin jamais j'aurais cette prétention-là, non.
Vous le disiez, vous avez eu beaucoup de moments de bas, surtout dans un métier comme celui de journaliste, qui est un métier précaire. Comment vous gériez ces moments de bas, vous? Comment vous faisiez? Est-ce que vous avez déjà eu à voir, à consulter peut-être un psy ou...
Non. Non, mais mal, vraiment mal. Après... soit j'ai une bonne étoile, mais je crois pas trop. C'est pas une mauvaise étoile, en tout cas, une étoile bonne. Mais c'est surtout que je suis à l'affût, c'est tout le temps. Je sais pas si j'ai eu de la chance, peut-être, il en faut un peu. Mais surtout, je me suis battue, quoi. Je me suis battue. Mais ça m'a pas empêché parfois de plonger. Mais quand je dis plonger, c'était pas des dépressions, c'était des moments d'angoisse, de l'impression d'avoir fait tout ça. Je me disais, t'as écrit un bouquin avec des chants, t'as écrit ça, t'as fait ça. pour en arriver où ? À rien du tout, quoi. Et puis pour une femme, entrer dans le milieu du football, c'est pas évident. J'ai essayé au départ, avant Deschamps. Mais ça a été terrible. C'était l'émission Téléfoot. Et j'avais à l'époque 23 ans, je travaillais à TF1. Et à l'émission Téléfoot, il y avait un journaliste qui travaillait là-bas, qui s'appelait Pascal Pro.
Pascal, le fameux.
Voilà. Et c'était un excellent journaliste de foot. Oui. Et puis quand on se voyait, puisqu'on travaillait tous les deux à TF1, et puis un jour il m'a entendu parler, il est venu me voir en me disant « Mais t'es une dingue de foot, toi, tu parles que de ça. » Je lui ai dit « Ouais. » Et puis comme il était sympathique avec moi, j'ai dit « S'il te plaît, tu peux pas me faire entrer à Téléfoot ?» Et il me dit « Ouais, ok, mais trouve une idée et viens me la proposer. » Et puis je reviens et je lui dis « Voilà, moi ce que je veux, c'est prendre les joueurs de l'équipe de France, les interviewer, mais des interviews complètement décalées. C'est-à-dire, on parle de tout sauf de foot. » Et comme j'ai été éduquée, alors je ne sais pas si vous connaissez, parce que vous êtes jeune, Mireille Dumas.
Oui, je connais.
Voilà. Ouais. Mireille Dumas, c'était la pro de l'interview. Bon, il se fait que mes premiers pas en télé, vraiment, c'était avec elle. Et elle m'a appris vraiment à faire accoucher les gens. Donc, j'ai dit à Pascal Pro, j'ai dit, tu sais, moi, je sais faire parler les gens, je sais leur faire sortir des trucs intimes, pourquoi on ne ferait pas ça ? Et là, il m'a dit OK. Et à l'époque, le directeur de la rédaction de Téléfoot était un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Dacier.
Futur président, qui a été président de l'OM.
Voilà. Et Pascal m'appelle un jour en me disant, ben voilà, tu peux y aller, Jean-Claude Dacier te reçoit. Et je rentre dans le bureau et il était assis, à l'époque on pouvait fumer, avec son cigare, les pieds sur la table. Et honnêtement, ses pieds, il m'arrivait là, quoi. Donc, l'accueil atroce. Et je lui explique mon truc. Il me méprise, mais il me dit, bon, on va vous donner une équipe. Vous avez un footballeur, là, vous connaissez quelqu'un? Je dis, ouais, je trouve que Youri Djorkaeff est un type intelligent et je pense pouvoir l'avoir. Ok. Demandez qu'on vous donne, enfin, vraiment un mépris total, mais je me suis dit, je m'en fous, qu'il me méprise, je m'en fous. Et donc, j'étais partie avec une équipe et Djorkaeff, on était partis dans la forêt de Fontainebleau, tous les deux. Et on avait discuté, c'est vrai qu'il s'était confié à moi et c'était vraiment un truc. L'émission est passée, enfin la rubrique est passée, ça avait fait un succès incroyable parce qu'il n'y avait pas de femmes à l'époque, c'était nouveau. C'était décalé, et puis surtout, on voyait le footballeur autrement que sur un terrain. Et Pascal me dit « Waouh, t'as fait un carton, c'est génial !» J'étais hyper contente, et là, je me suis dit « Waouh, tous les footballeurs, c'est pas seulement l'équipe de France, ce sera. » Et puis en fait, Jean-Claude Dacier m'a rappelé en me disant « Vous comprenez, on n'est pas... je sais plus ce qu'il m'avait dit, le journal Elle ou Marie-Claire, vous comprenez, nous on est une émission de foot, on fait du foot, donc vos amusements là, ça m'intéresse pas. Et il m'avait viré. Donc
c'est violent.
Ouais, c'était violent. Ouais, c'était violent. Donc après, ben voilà, il y a eu des chants, mais ça m'a pas vraiment fait rentrer dans le milieu. Puis après, j'ai fait des films sur les équipes de France, sur les femmes des champions du monde. Mmh. J'ai ramé, vraiment. J'ai ramé. Il n'y a que maintenant où ça y est, c'est parti. Mais j'ai ramé.
Et vous diriez quoi à une jeune fille aujourd'hui qui veut être journaliste comme vous, qui veut faire du journalisme d'enquête, de terrain, écrire des livres, faire des docus?
Bah, je ne la découragerai pas parce que c'est tellement passionnant que je ne peux pas la décourager. Mais si elle n'a pas de réseau, et puis l'équipe de France d'aujourd'hui, ce n'est pas l'équipe de France... d'il y a 15 ans. Avant, on pouvait rentrer à Clairefontaine, voir les joueurs. Ah, mais là, si on n'est pas accrédité, on ne peut même pas passer la barrière pour rentrer dans le parc de Clairefontaine, avant même d'accéder au château. Les joueurs sont totalement inaccessibles. C'est très compliqué, c'est très, très, très compliqué. Le seul avantage, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont... C'est pas encore ça, hein. mais on est quand même mieux accepté. Moi, je sais que quand, par exemple, j'ai proposé à Olivier d'écrire un livre, alors j'ai été en compétition avec un garçon quand même, un homme, mais voilà, on est plus choqué.
Mais justement, comment elle se fait cette rencontre avec Olivier Giroud ? Est-ce que c'est lui qui fait la démarche de vouloir écrire un livre ou est-ce que c'est vous qui allez vers lui parce que...
C'est toujours moi qui fais le qui premier chercher les gens. Ouais. Je crois que c'est parce que je travaillais sur une émission sur M6 et le producteur qui savait que je connaissais un peu les footballeurs me dit, écoute, Olivier Giroud est beau. C'était pas du tout une émission foot. Est-ce que tu peux essayer de faire un reportage sur lui, sa famille, etc. Bon, j'ai mes petits réseaux, donc j'arrive à avoir son numéro perso. Et puis, avant de l'appeler pour l'émission, je me dis, mais lui, il a un truc, quoi. Il est hyper croyant, ce qui est quand même très rare pour un footballeur. Et puis, il a une carrière de dingue, quoi. Il est pas reconnu, alors que je trouve pas le mot, mais alors qu'il se bat comme un dingue, qu'il a décroché, qu'il est allé dans de grandes équipes, il est conspué, Benzema, etc. Je me dis, mais en fait, il est toujours là, il se bat, waouh, c'est un parcours, voilà ce que je vous disais, un parcours qui m'intéressait. Et donc, je l'appelle et il décroche. Il était dans un avion qui était prêt à décoller. Et donc, pour avoir une légitimité, tout de suite, je dis que je suis la biographe de Deschamps. Donc là, il accepte de me parler. Je lui dis, écoutez, voilà, il me dit, je dois décoller. Je dis, voilà, je voudrais écrire un livre avec vous. Et là, il rigole et il me dit, c'est marrant, j'y pensais, mais c'est peut-être un peu tôt. Appelez mon agent. Et voilà. Et j'ai appelé son agent. Et entre ce moment-là et le moment où on a signé le contrat, il s'est passé un an.
Un an avant de ouais. pouvoir commencer à écrire le livre.
Ouais. Oui, parce qu'il voulait réfléchir. Et ensuite, un autre journaliste est arrivé, un journaliste sportif, qui a proposé d'écrire le livre. Et là, Olivier... il s'est dit, qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle ? Et son agent me dit, tu sais, je pense malheureusement qu'Olivier va choisir le journaliste sportif, il est plus en sécurité. Et je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème, demande-lui juste qu'il m'appelle ce soir. J'ai quelques mots à lui dire et puis ensuite, il décidera. Et donc, Olivier m'appelle avec sa femme à côté. Et je lui dis, ben voilà, je sais que tu hésites entre ce garçon et moi. Voilà, je vais te dire, si tu as envie d'écrire un livre sur ta carrière, sur le foot, sur ta carrière sportive, alors choisis-le. Moi, je ne suis pas la bonne personne. En revanche, si tu veux avoir ta carrière sportive en toile de fond, mais que ce soit un livre sur tes valeurs, sur l'homme que tu es, sur l'enfant, sur le parcours que tu as eu, alors c'est moi que tu dois choisir. Et voilà.
Ouais, c'est dingue. Vous avez toujours les bons mots pour.
je crois que c'est de la sincérité aussi, quoi.
Parce que c'est un livre dingue où il se confie vraiment de A à Z. Il parle de tout. Il parle de notamment de cette opposition avec Karim Benzema, finalement qu'on va lui reprocher alors que c'est pas de son fait.
Il y est pour rien.
Il y est pour rien. Mais naturellement, c'est lui qui remplace Karim Benzema à la tête de l'attaque des Bleus. Donc forcément, c'est à lui qu'on en veut. Est-ce que dans vos discussions avec Olivier Giroud, il y a des moments où il craque, il y a des moments où vous avez l'impression de vraiment le découvrir d'une autre manière que celle par laquelle on le voit ?
L'impression de le découvrir d'une autre manière, oui, parce qu'il s'est vraiment... il était à Chelsea à cette époque-là, donc j'allais le voir une fois par semaine et on était vraiment cloîtrés dans une pièce de son appartement. Il a mis du temps avant de parler parce que les footballeurs, pour donner leur confiance, c'est pas évident. Et puis quand il m'a mieux connu, quand on avait vraiment une belle relation. Là, il s'est complètement livré. Donc oui, mais toujours quand même dans la maîtrise, dans le contrôle. Par contre, il y a un mois de ça, à la sortie de son film, oui, là, pour la première fois, je l'ai vu pleurer.
Elle était émue. Ce film, d'ailleurs, dans lequel sa mère intervient.
Ben voilà, il a pleuré à la suite de la déclaration de sa mère. Mais ce que dit sa mère, ce que révèle sa mère, c'est dans le livre. Mais ça aussi, c'est très étrange. On voit la pudeur du garçon. C'est que donc toutes les semaines, je l'interviewais donc sur son enfance. J'essayais de trouver les leviers psychologiques, les ressorts pour vraiment qu'on le connaisse. Même lui a découvert des choses sur lui. C'était presque une psychanalyse que je faisais avec lui. Et un jour, je lui ai demandé si je pouvais parler à sa mère. Voilà, pour qu'elle me donne plus d'infos sur son enfance. Et sa mère m'a appelée. On est resté une heure au téléphone. Elle me raconte l'enfance d'Olivier, la personnalité d'Olivier enfant. Et puis au moment de raccrocher, elle me dit « Je crois que j'ai oublié de vous dire quelque chose. » Je dis « Ouais. » Elle me dit « J'ai pas voulu d'Olivier. C'est pas un enfant désiré. » Donc là, je me dis, là, je tiens un truc. Vous pouvez me raconter ? Elle me raconte qu'elle avait 3 enfants, que c'est un accident, qu'elle a tout fait pour qu'il tombe et il s'est accroché. Et là, je me suis dit, mais elle est là la clé. C'est-à-dire que déjà dans le ventre de sa mère, il s'accrochait. Il fallait qu'il existe. C'est l'histoire de sa vie, Olivier. Hein, c'est prouver qu'il existe. C'est s'accrocher pour réussir. Ok, je lui dis, vous m'autorisez à l'écrire ? Il m'a dit oui. Et quand j'ai appelé Olivier, je lui ai dit, t'as pas oublié de me dire, de me donner un petit détail là, de ton enfance ? Il me dit non. Je lui ai dit, enfin, ta mère m'a dit que t'étais pas un enfant désiré ? Ah, mais oui, non, mais ça c'est un détail. Je lui ai dit, quand même, non ? Il me dit oui, mais tu sais, j'étais tellement aimée, tellement adorée, que pour moi ça n'a aucune importance. Et puis quand je lui dis, tu crois pas que ta détermination, ça vient un peu de là ? Et là, il me dit, ben ouais, t'as peut-être pas tort, il faudrait peut-être qu'on en parle. Voilà, mais... Et quand il a vu sur grand écran le soir de l'avant-première, sa mère en parlait, j'étais à côté de lui, et là, on lui a donné le micro, et il a eu les larmes aux yeux.
Est-ce que Giroud, comme vous le disiez tout à l'heure, Deschamps est devenu un ami par la suite ? Est-ce que Olivier Giroud, pareil, dans le même registre ?
Alors, ce n'est pas la même relation, parce que ce n'est pas la même génération. Didier Deschamps à mon âge. Donc, je dirais qu'on est vraiment amis, quoi. Amis proches, vraiment. Amis dans le sens où... on ne parle pas que de foot, on parle de nos vies respectives, perso, etc. Donc lui, c'est vraiment un proche. Olivier, c'est une très, très jolie relation. D'abord parce que, comme j'ai dit, je l'ai pressé comme un citron, quoi. J'ai fait un livre, j'ai fait un film, j'ai fait des reportages sur lui. Donc je le connais bien, je connais bien sa femme que j'aime beaucoup, ses enfants, ses parents, ses frères. Donc, on a une relation très respectueuse et tendre, je dirais. Voilà, une tendre relation.
Vous le disiez tout à l'heure, s'il y a un autre joueur que vous aimeriez faire, c'est Paul Pogba, de par le parcours atypique. Si on enlève Pogba et qu'on prend les 25 joueurs qui sont actuellement à l'Euro, est-ce qu'il y en a un aussi qui attire particulièrement votre attention ?
Il y en a un qui, en fait, sont deux. Ce sont les frères Hernandez. Okay. Oui. J'aimerais, parce qu'eux, ils ont une histoire. Déjà, 2 frères en équipe de France, c'est quand même incroyable. Et puis, ils ont une histoire familiale, personnelle, difficile.
Abandonnée par leur père.
Voilà. Et ça m'intéresse vraiment. J'ai jamais essayé parce qu'à chaque fois j'entends dire qu'ils sont en train de préparer un truc et puis finalement rien. Donc je pense que je vais attaquer là une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à faire. Ouais, il y a eux et il y a, mais je le ferai pas parce qu'il est pas encore assez. Il y a Cavaminga,
okay,
qui m'intéresse, mais là je sais que je vais pas en vendre 10, il est pas assez connu, donc j'attends un peu.
Ok. Il y a également, je crois que c'est votre dernier livre, Croire en la vie, avec que vous.
Alors là, c'est carrément, j'ai changé de registre.
Voilà, c'est. Là, on n'est plus du tout dans le sport.
Ah non, on n'est
c'est
plus.
avec Laura Blajman-Kadar.
Oui, c'est une survivante
du 7 octobre.
Du 7 octobre. Alors là, c'est différent. J'ai été complètement choquée par ce qui s'est passé. Et je me suis dit, c'est mon rôle aussi de donner la parole à ces gens-là. Voilà. Je l'ai écrit en un mois, ce livre. Très, très vite. Parce que c'était très intense. Elle, je l'ai contactée, je crois, le 20 octobre. Donc, elle était encore... Et ça s'est fait très, très rapidement. Je suis heureuse de l'avoir fait. Je me dis, voilà, j'ai participé à quelque chose. Et puis, maintenant, je suis revenue à mes anciennes amours. Mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas autre chose là-dessus. Mais pour l'instant, je suis revenue au foot.
Comment elle se sent, Dominique Rouche, aujourd'hui ? Comment ça va, de manière générale, avec l'ambiance actuelle dans le pays, l'ambiance politique, sociétale ?
Personnellement, bien, parce que vraiment, là, je suis en train de terminer un livre que je devais sortir en septembre. Je ne peux pas encore dire ce que c'est, mais c'est croustillant, c'est sur le foot, avec quelqu'un. On devait le sortir en septembre, et puis compte tenu de l'actualité, on l'a repoussé en janvier, parce que sortir un livre en septembre, c'est même pas imaginable. J'ai terminé mon documentaire avec Olivier, j'en commence un autre, je ne peux pas dire sur qui, mais ça va être un grand film. Donc, professionnellement, je dois dire que je suis très heureuse, je suis fière aussi parce que tout ce que j'obtiens, c'est moi qui l'obtiens, ce n'est pas de la chance, on ne vient pas me dire tiens, je te propose de faire ça, non, c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui me bats, etc. Donc, je suis très heureuse. Après, je ne m'envolerai jamais parce que je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire que si je n'ai plus d'idées, je n'ai plus de travail. C'est comme ça. Et pour l'instant, j'en ai. Pour l'instant, les gens me font confiance. Mais voilà. Donc, mais professionnellement, franchement, pourvu que ça dure, c'est magnifique. Je fais mes deux passions en même temps. J'écris, je fais des films. Et je suis dans le foot, donc c'est le bonheur. Après, je pense qu'on est tous pareils. Hein. C'est l'angoisse. Moi, je sais que ça me perturbe beaucoup. Là. Je suis en train d'écrire un bouquin et j'écris, j'ai mon téléphone. Et puis, toutes les deux minutes, il y a des alertes. Et je me jette sur mon téléphone pour voir ce qui se passe. Mais que ce soit en France, que ce soit... au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine, et voilà, et j'ai peur pour mon petit garçon qui a 16 ans. J'ai peur, quoi. Et j'ai peur de dimanche, et j'ai peur de dimanche d'après, j'ai peur des conséquences. C'est un cauchemar, vraiment.
Vraiment, point-là vraiment.
Je sais pas si vous avez des enfants, mais quand on a un enfant, on se dit, mais il va vivre dans... Sur quelle planète déjà ? Dans quelle planète pourrie ? Et puis dans quel monde ? Voilà, et puis je le vois avoir peur lui aussi. Donc comme il a peur, il peut tenir des propos parfois un peu choquants, donc il faut que je le recadre. C'est très très compliqué. C'est très compliqué et honnêtement, je ne vois pas d'issue... Là, quand aux élections, je me dis de toute façon, quel que soit le parti, alors oui, le parti de la majorité, c'est évidemment, enfin en ce qui me concerne, hein, ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas génial non plus, donc je sais pas, je suis pas très optimiste, mais bon, je pense qu'on est tous confrontés à ça et à ces interrogations et à cette peur, ouais.
Question que j'allais vous poser, vous avez écrit sur le foot, on le disait, est-ce qu'il y a d'autres sports qui vous ont intéressé ou pourraient vous intéresser
Aucun.
Par la suite? Que le foot?
Mais j'aime pas trop le sport en fait.
Vous êtes vraiment que foot.
Ouais, je peux regarder du tennis, mais au bout d'une heure, ça me gonfle. Et puis les autres sports, je vais pas vous dire que je vais rester scotchée sur les JO. Je peux regarder comme ça. Non, c'est que le foot. Je fais pas de sport. Non, c'est que le foot.
Et une personnalité dans notre sport, par exemple dans le tennis, Rafael Nadal, Djokovic, c'est deux gens qui...
Ne m'intéresse pas.
Et pareil, des personnalités étrangères, mais dans le football, ce serait possible. En dehors des Français, on a cité Giroud, Deschamps, Kanté, Pogba, les frères Hernandez.
Ouais. Là, comme ça, ça me vient pas. Encore une fois, Messi, Ronaldo, c'est un peu ce que je vous disais
c'est trop
sur
propre.
Mbappé, ouais. Quoi. C'était écrit, ouais. Zidane, oui, si je pouvais faire un film sur Zidane, j'avoue que je cracherais pas dessus, même si lui aussi. Mais lui, c'est autre chose. Lui, il y a une histoire, il y a une culture. Marseille, l'éducation de ses parents. Et puis, je l'ai connu un petit peu, Zidane, et c'est vrai que j'ai été tellement surprise par l'humilité du mec, la gentillesse. Ouais, de Zidane.
Zizou. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Que ça continue. Voilà, que je continue à faire des films, des livres dans le foot et hors foot aussi. Voilà, mais que ça continue à bien marcher. Ouais.
Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange. On va finir avec un petit jeu que j'ai toujours avec mes invités en fin d'émission. Je vais vous proposer des débuts de phrases et il va falloir les compléter. Est-ce que c'est bon pour vous?
Est-ce que j'ai le choix?
Première phrase, être une femme aujourd'hui, c'est...
Être une femme aujourd'hui, c'est plutôt pas mal parce qu'on commence à avoir quand même pas mal de pouvoir.
Le foot est un sport de...
Le foot est un sport de garçons et de filles.
La France, pour moi, c'est...
Le chaos.
J'aimerais dire à Olivier Giroud que...
Je l'adore.
Écrire un livre, c'est ce qu'il y a de plus...
Orgasmique.
Didier Deschamps est un homme...
Est un homme.
Ouais.
Surprenant.
Mon plat préféré est le...
La pizza.
Dans 10 ans, je me vois...
Avec des petits-enfants.
La situation actuelle du pays me... Vous avez un peu répondu tout
M'angoisse.
À l'heure.
M'angoisse.
Si je devais utiliser 3 mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais...
Angoissé. Optimiste. Pessimiste.
Mon interview du jour était...
Top.
Bah, merci en tout cas.
Merci à vous.
Encore une fois, c'était un plaisir de vous recevoir. On le rappelle, le livre « Toujours y croire » qui est disponible, hein, que vous ouais. pouvez commander. Bon, moi, je l'ai acheté sur la Fnac, mais vous pouvez donner de la force aux libraires indépendants et, et vous le procurer pardon, à travers ce biais-là. Fin de cette deuxième saison d'À bout de souffle, AB2S appelé plus familièrement. Une belle saison riche en émotions et rencontres, riche en histoires, en apprentissage. Une saison qui n'aurait pas été possible sans un nombre incalculable de personnes que je vais prendre le temps de remercier. Ils sont ceux qui nous permettent d'avoir un décor, de discuter et d'avoir du son, donc d'être entendu. Ce sont les techniciens son Jason, Léonard et Greg. Être entendu, c'est bien. Être entendu et vu, c'est encore mieux. Et ça, c'est le rôle des vidéastes. C'est eux qui nous subliment, nous mettent sur le devant de la scène, nous confrontent au feu des projecteurs. Merci à Greg, à Unissa, à Jay et à Arthur. On a le son et l'image, tout ça, c'est bien. Mais on tourne ça où? On diffuse ça quand? Via quelle plateforme? Avec quel budget? Ça, c'est le rôle de la direction et je voudrais remercier Daniel Mendy pour sa confiance et son accompagnement, sans oublier Loïc, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. On a le lieu, l'image, le son, l'animateur, mais il faut bien qu'ils soient confrontés à des gens. Ces gens, ce sont les invités. Ils te subliment 1 heure d'émission de par leur vécu, leurs histoires, leurs anecdotes. Ils s'appellent Abby Defoy, Abdemazian, Max Gomis. Ils se confient par la cœur ouvert. Ce sont Dominique Rouche, Assa Traoré, Thibaut Vézirian, Aboutal. On rigole, on se détend, on se vanne, c'est Aboubakar Sakanoko, Aziza Boudrar, Sarah Ichou. Ils ont fait votre enfance ou la mienne, c'est El Hadj, Barberich, Bayoussard. Ils ont des profils atypiques, hors du commun, c'est Lamal, Adama Camara et Gaël l'Ancien. Merci à eux. Et le meilleur pour la fin, celle qui démarche les invités, celle qui se prend la tête pour que tout soit carré, celle qui me conseille, m'assiste dans la ligne éditoriale, celle qui me fait les graphiques, celle qui s'assure que tout sorte en temps et en heure, celle à qui je prends la tête bien trop souvent pour pas grand chose d'ailleurs, celle qui travaille dans l'ombre, celle que vous ne voyez jamais à l'image mais sans qui tout ça n'aurait plus grand sens. Un grand merci à Maëva. Une fois qu'on a dit tout ça, comment finir sans remercier vous, auditrices et auditeurs, spectatrices et spectateurs, merci pour votre fidélité, votre présence, vos commentaires, vos partages, vos critiques constructives. C'est les remerciements les plus longs du monde, mais ils étaient nécessaires. On se dit à la saison prochaine, rendez-vous le dimanche 22 septembre à 20h. En attendant, passez un bel été et l'ensemble de nos émissions sont bien évidemment disponibles sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts. Pour ceux qui ont voté aujourd'hui, 30 juin, n'oubliez pas d'aller également voter le 7 juillet prochain. Essayons de conserver les droits qu'on a et de continuer à vivre dans cette belle démocratie qui est la nôtre. Passez une belle soirée et nous on se dit à la saison prochaine. Passez un bel été et faites attention à vous et à vos proches.